Quelle joie pour moi d'être de retour à l'église Nouvelle Vie La Prairie. Nous sommes tellement fiers de vous comme église, congrégation, l'équipe pastorale, Ben Sophie et toute l'équipe, cette église dynamique, vibrante et croissante. Alors, merci Seigneur pour l'église Nouvelle Vie La Prairie. Si vous êtes d'accord avec moi, une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour cette église. Église fantastique, exceptionnelle. Et je suis aussi heureux d'ajouter ma voix à cette série Découvrir Jésus, comme Jésus est présenté dans l'Évangile de Jean, avec un message ce matin que j'appelle « Faire face à l'échec », qui est inspiré par l'échange que Jésus a eu avec Pierre sur la plage trouvée en Jean 21, après l'échec de Pierre, quand il a abandonné puis renié Jésus. Vous connaissez l'histoire. Et une des particularités de Jean, de l'Évangile de Jean, c'est que c'est un livre qui projette une lumière sur des échanges souvent privés, personnels et poignantes, comme cet échange avec Pierre. Mais il y en a plusieurs, des échanges renommés, comme celle avec Nicodème, la femme samaritaine, la femme adultère, d'où sort la phrase réputée depuis des siècles, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre ». Il y a son échange avec Pilate sur la vérité, ainsi qu'avec Thomas qui doutait la résurrection jusqu'à temps que Jésus l'invite à mettre ses mains sur ses cicatrices. Vous connaissez ces histoires. Et ce qui est remarquable est que chacun de ces partages est non seulement personnel, mais personnalisé selon le besoin de chaque personne. Pour qu'on découvre et comprenne qu'une rencontre avec Jésus peut tout changer. Ça vaut la peine de répéter. Une rencontre avec Jésus peut tout changer. Vous êtes d'accord avec moi? Comme nous voyons aussi dans l'échange poignant entre Jésus et Pierre sur la plage après la résurrection, quand Pierre vit une profonde déprime due à son échec monumental d'avoir abandonné et renié Jésus quand Jésus avait le plus besoin de lui, mais qui depuis des siècles... Cette histoire sert comme source d'encouragement pour toute personne qui ont déjà connu un échec dans leur vie, qui est à peu près 100% de nous. Amen. Laisse-moi pas tout seul en avant ici, là. Car s'il y a une chose que nous avons tous parfaitement en commun, est le fait que nous avons tous, sans exception, subi un échec ou des échecs ou une série d'échecs. Car personne dans cette salle est exempt de cette réalité. Car l'échec chez l'être humain existe depuis à peu près toujours. Qu'est-ce que les hommes suivants ont en commun? Adam, Moïse, Abraham, Jacob, Samson, David, Jonas, Noé, Salomon, Saul, Pierre, Judas et Marc. Juste pour nommer quelques-uns. D'abord, ils sont tous des personnages bibliques renommés, quelques-uns héroïques même, et ils ont tous connu l'échec. Des petits échecs et des grands échecs. Même des échecs énormes, comme l'échec d'Adam, on paie encore pour sa gaffe 6000 ans plus tard. Comme vous savez, que ce soit les petites irritations que nous connaissons ou les situations tragiques que nous vivons, tout cela est la faute de l'échec d'Adam. À chaque fois que vous regardez dans le miroir et vous dites « Ugh, faute d'Adam ». Chaque fois que vous regardez dans le miroir et vous dites « Wow! » Ça aussi, c'est la faute d'Adam. C'est parce que vous perdez la vue. Et on ajoute à l'histoire d'Adam celle de Moïse. Moïse tue un homme avec ses deux mains, vit une séparation de son épouse et après avoir tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, manque la terre promise à la dernière minute due à une crise de colère. Ça, c'est Moïse. Noé. Renommé pour avoir construit l'arche et sauvé sa famille du déluge, termine sa vie couché tout nu et exposé sur son lit dans un état d'ivresse. L'erreur d'avoir implanté une vigne et profité du fruit un peu trop. C'est dans la Bible, ça. Lot, appelé un homme juste, mais qui vive lui aussi la honte vers la fin de ses jours quand ses deux filles commettent l'inceste avec lui pendant qu'il est dans un état d'ivresse. La morale de l'histoire de Lot et Noé, attention à l'abus de l'alcool. La source de plusieurs échecs depuis des milliers d'années, encore en 2022, et j'ajouterai la drogue aussi. Samson, après plusieurs exploits incroyables et spectaculaires, il termine sa vie aveugle, enchaîné et captif dans une prison, passant ses journées à tourner une meule. Dû à son négligence, son compromis, sa présomption, son erreur de jugement, d'avoir été séduit et endormi par une femme, l'échec. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais qui connaît un échec après l'autre, qui inclut l'adultère, l'extrême injustice, l'abus du pouvoir et le meurtre. Toutes ces histoires-là sont dans la Bible. On peut ajouter à cela Salomon. Malgré sa sagesse, il a épousé 700 femmes, dont plusieurs des pays étrangers qui ont réussi à le détourner de Dieu et corrompre son cœur. Alors, quand les étudiants me demandent à l'ETF, « Pasteur Marc, est-ce que Salomon sera au ciel ou en enfer? » Moi, je réponds toujours le ciel. Il avait 700 femmes, il a déjà vécu son enfer. Ça, c'est la théologie profonde de l'ETF. Inscrivez-vous. C'est ce qu'on découvre à l'ETF. On a Abraham, le père de la foi, coupable de mensonge et pour donner son épouse à un roi motivé par la crainte. En plus, nous avons Jonas, le prophète qui fuit l'appel de Dieu. Le roi Saül permet la jalousie intense de le rendre fou et violent. Il y a Marc qui fuit Jésus au moment de son arrestation et abandonne l'apôtre Paul en pleine mission et perd la confiance du grand apôtre et devient la cause d'une division entre Paul et Barnabas. On a Judas. Malgré avoir vécu 3 ans avec Jésus, avec tous les privilèges et puissances d'un disciple, il trahit Jésus et enlève sa vie, paralysé par le regret. Est-ce que vous êtes encouragé? Je peux continuer? Il y en a qui vous demandent, mais Pasteur Marc, pourquoi nous raconter ces histoires inglorieuses et anti-héroïques? Pour que nous comprenions que nous ne sommes pas tout seuls. Et pour apprendre comment sortir d'un échec vainqueur et non pas victime, car on a ces deux histoires-là et résultats dans la parole de Dieu. Nous voulons faire ce qui est nécessaire pour ne pas laisser l'ennemi exploiter notre échec et servir de lui contre nous. Mais nous voulons permettre à Jésus de s'en servir pour notre bien et pour sa gloire, comme qu'il a fait avec Pierre. Et pour aider d'autres personnes avec leurs échecs et pour comprendre que le meilleur est devant nous et non pas derrière nous. Le meilleur est devant nous et non pas derrière nous. Nous pouvons passer notre temps en rêvant de la vie qu'on aimerait avoir ou qu'on pense qu'on aurait dû avoir, ou revivre nos erreurs comme un film continu dans notre tête, ou vivre pleinement la vie que nous avons. À partir de ce moment, il faut éviter de laisser l'échec gaspiller notre temps, nos pensées, nos émotions et nos efforts. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, qu'est-ce que je veux dire par l'échec d'une façon plus précise? Well, dû à l'imperfection de la condition humaine et la dysfonction normale de la vie sur Terre, il y a plusieurs formes et une grande variété d'échecs. D'abord, tout ce qui n'est pas parfait ou qui ne fonctionne pas chez nous, ou qui n'arrive pas comme on aurait voulu ou prévu ou souhaité, ou même comme nous avons planifié, soit sur le plan personnel, financier, professionnel, familial, spirituel ou physique. C'est peut-être un rêve non comblé, un projet non accompli, un plan qui tombe à l'eau. Comme moi, j'ai fait littéralement, il y a une couple de semaines sur le lac Magog, où j'apprenais le paddleboard pour la première fois. Une belle illustration de l'échec. J'ai un petit clip ici, vidéo, il y a 2 semaines. Pour la première fois, j'ai mis les pieds sur le paddleboard avec beaucoup de confiance en disant, « Je suis capable. » Mais là, vous allez voir le petit clip, moins capable. Et si vous demandez, c'est qui la personne qui passe devant moi, et moi, je suis en arrière, encore à genoux, c'est mon épouse. Regardez le clip ici en arrière. Parlons de l'échec. Okay, ouais.
De flexibilité.
Ça, c'est moi, ça. Plein de confiance. Et là, vous allez voir, je suis encore en arrière à genoux, puis remarque qui passe devant moi, mon épouse.
Je travaille dessus, fait que t'es correct.
« En passant, c'était la première fois pour elle aussi, hein? Yeah. Moi, je suis encore à genoux en arrière, puis elle passe comme ça. You can do it, honey! T'es capable, chérie, t'es capable! Hein? On parle d'humiliation. Et en passant, on va célébrer notre 38e anniversaire de mariage cette semaine. Il y a 38 ans, elle m'a supplié de la marier, puis j'ai dit oui. Et je ne le regrette pas depuis. Et je peux dire qu'après 38 ans de mariage, mon cœur bat encore quand j'entends sa voix. De la crainte! Ça fait 38 ans qu'on est mariés. Marc, que j'ai fait. La crainte et l'amour aussi. Un peu comme avec Dieu. Tous les hommes mariés disent... Yeah. Un échec sur un paddleboard est un peu comique, surtout pour les spectateurs. Mais un échec dans la vie peut nous coûter cher et nous blesser profondément, comme une erreur en jugement. Un mariage qui ne fonctionne plus, des enfants qui ne prennent pas les décisions qu'on aurait souhaité ou imaginé qu'ils prennent, après que nous avons fait notre mieux de bien les élever et conseiller. Ça peut être la séparation, la division, la perte d'une épouse, d'un emploi, d'un rêve, de notre innocence, de notre réputation, d'une somme d'argent, de notre témoignage. Il y a mille et une façons que nous vivons l'échec. C'est pour cela que je dis que l'échec est commun à tous les êtres humains sans exception et existe depuis toujours. Et qu'il y a toujours une raison pour se sentir comme un échec si on le permet ou si on permet l'ennemi de nous convaincre que nous sommes. Et parfois, l'échec est tout simplement un geste que nous avons fait, qu'on n'aura jamais attendu de nous. Parfois, on se surprenne nous-mêmes, comme dans cette histoire de Pierre. Il pleure amèrement quand le coq chante, il est réveillé à la réalité de ce qu'il vient de faire. Alors, selon moi, la première chose à comprendre au sujet de nos échecs est que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas l'exception ou exceptionnel dans votre échec. La première chose qu'on apprend de Pierre, c'est que nous ne sommes pas seuls. Si vous avez vécu un échec ou vous vivez en ce moment, ce que vous pensez est un échec, welcome to the club. Le club des êtres humains, un club qui existe depuis toujours. C'est pour cela que le nom que je donne à une réunion à l'église est le rassemblement des incarcérés. Car nous sommes tous captifs de quelque chose. Nous sommes tous prisonniers de nos habitudes, de nos circonstances, de nos regrets, de nos erreurs. Nous avons tous des échecs et des choses dans nos vies et des décisions et choix que nous avons prises dont nous ne sommes pas fiers. Personne n'est exempt ici aujourd'hui. Ne soyez pas jaloux de votre frère ou votre sœur. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous besoin de Dieu. Nous sommes tous affectés par le péché. Nous avons tous besoin de la rédemption, le pardon et la grâce de Dieu offerts à nous par Jésus-Christ, tous, moi inclus. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Laisse-moi pas tout seul ici. On n'est pas tout seul. Alors, comment faire face à l'échec? D'abord, comprenez, acceptez que vous n'êtes pas seul. Et en deuxième, ne permettez pas que l'échec vous définisse ni vous détruise. Il ne faut pas laisser un échec ou les échecs qu'on connaît nous définir ou nous identifier. Nous avons peut-être connu l'échec, mais nous ne sommes pas l'échec, un échec. Comme on dit en anglais, « We might know failure, but we're not failures. » Il y a une différence. De vivre un échec ne veut pas dire que nous sommes des échecs. On est des perdants, des losers, disqualifiés. Non, pas du tout. L'échec est quelque chose que nous vivons, mais il n'est pas qui nous sommes. Il n'est pas notre identité. Il faut séparer ce que nous avons fait et ce que nous avons passé à travail de qui nous sommes. Car de permettre à un échec de nous définir ou nous identifier est le premier pas vers laisser l'échec nous détruire. Et pire que laisser l'échec nous définir et de lui permettre à nous détruire, comme ça a eu dans l'Ancien Testament et Judas dans le Nouveau Testament. Ils ont non seulement laissé leurs échecs les identifier, mais ultimement, ils ont permis que leurs échecs les détruisent. Ils ont devenu des victimes de l'ennemi traître et fatal, appelé le désespoir. Saül tombe sur son épée et Judas se pend avec une corde qui n'est même pas assez forte pour le supporter. Et selon les Écritures, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. C'est comme ça qu'il finit. Un geste absolument pas nécessaire, mais qui arrive trop souvent. Peut-être pas de la même façon si dramatique et souvent même pas par un suicide physique, mais par le suicide spirituel, social, familial, ministériel, par l'éloignement, l'isolation, le regret, la culpabilité, la condamnation. Et les gens tombent dans le piège de l'ennemi. Et je l'ai vu tellement de fois en 38 ans de ministère, les gens qui vivent un échec et tout d'un coup, ils deviennent défaitistes et détruits par l'ennemi. Et là, ils vont s'isoler et ultimement, ils vont se détruire parce que l'ennemi attaque quand on est vulnérable, comme un requin attiré par le sang dans l'eau et remplit nos têtes de pensées noires. Que c'est ça qui est arrivé avec Saül et avec Judas. Et c'est pour cela qu'il faut faire ce qui est nécessaire pour comprendre et vaincre l'échec, surtout de ne pas laisser l'ennemi exploiter notre échec et servir de lui contre nous. Ne permettez pas que l'échec vous définisse ni vous détruise. Troisième chose à apprendre dans cette histoire, et c'est que l'échec ne nous disqualifie pas. Il ne nous disqualifie pas de l'amour de Dieu, ni de notre appel, ni de notre mission. Comme déjà mentionné, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont connu des échecs dans la Bible, mais un des échecs le plus monumental est celui de Pierre, que malgré ses grandes et belles promesses d'amour, fidélité, il abandonne son ami et Seigneur juste au moment que Jésus avait le plus besoin de lui, et il renonce Christ trois fois. Après avoir été choisi par Jésus, après avoir vécu trois ans avec Jésus et après avoir prononcé des grandes paroles d'engagement et fidélité à Jésus, comme qu'on trouve en Matthieu 26 et Jean 13, « Je donnerai ma vie pour toi, Jésus. Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Mais il abandonne son ami. Et la troisième fois, il fait avec des imprécations et des jures, des sacs. C'est un des échecs les plus renommés, non seulement bibliques, mais mondial. Tout le monde connaît cette histoire. Et Dieu a cet échec. Ça nous dit que Pierre étant sorti, il pleura amèrement. Et non seulement qu'il pleure amèrement, mais il retourne à son ancien métier de pêcheur professionnel. Il est tellement découragé, il est tellement indigne, il est tellement défaitiste que ça nous dit en Jean 21, juste avant cet échange, il dit « Moi, je vais me retourner à faire ce que je faisais avant. Moi, je suis disqualifié d'être un disciple. » Un échec. Mais quelles sont les deux choses qui préoccupent Jésus dans son échange avec Pierre après sa résurrection sur la plage quand Pierre retourne à son métier de pêcheur? Après son échec et après que Pierre a renié Christ et retourné à son travail, c'est quoi les deux choses qui préoccupent Jésus dans cet échange? Son amour et sa mission. On l'a le texte ici sur l'écran. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Avez-vous remarqué que Jésus n'a même pas mentionné son échec? Il n'a même pas mentionné son échec. Jésus n'a pas dit, « Comment ça se fait que tu m'as renié? Je n'aurais jamais pensé ça de toi. Après toutes tes paroles et toutes tes promesses, quelle sorte de disciple es-tu? Quel hypocrite! Quelle déception! » Jésus ne le mentionne même pas. Non, tout simplement, « Est-ce que tu m'aimes toujours, Pierre? J'ai encore une mission pour toi. Paie mes brebis. » qui était une autre façon de lui dire, « Tu n'es pas disqualifié. Je peux encore servir de toi. » Tu m'as renié trois fois, et moi je te dis trois fois, « Paie mes brebis. » Il y a une raison pour ça, que Jésus lui demande trois fois, « Est-ce que tu m'aimes? » Parce que Pierre a renié Jésus trois fois. C'est une autre façon pour lui dire, « Je suis très conscient de ce que tu as fait, mais ta mission, ta destinée, ton raison d'être est plus important. Je t'aime. Tu n'es pas disqualifié. » Wow! Quelle grâce, quelle patience, quel amour, quelle compréhension de la part de Jésus, quel soin que Jésus a ici quand on voit son cœur pastoral de Jésus. Malgré la blessure, malgré qu'est-ce qu'il a vécu, il est très conscient de la déception, mais il offre le pardon, la grâce, la destinée. Combien peut dire « Amen » pour la grâce de Jésus, son pardon, son amour. Quel exemple pour nous. C'est pour ça que moi je dis, reçois cette grâce, reçois le pardon, reçois l'amour de Jésus. Jésus avait une parole pour Pierre dans son moment de déprime à cause de son échec, dans son moment de découragement. Jésus avait une parole pour Pierre et Jésus ressuscité a une parole pour vous et moi aujourd'hui. Reçois son pardon et sa grâce, il vous aime encore. Il y a encore une mission pour tous et chacun de nous, peu importe où ce que nous sommes. Come on, une bonne main d'applaudissement encore. Pour le Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel exemple pour nous. Moi, je vous encourage ce matin, reçois la grâce de Jésus. Reçois cette parole de Jésus qui est pour vous. Et dégage aussi cette grâce. C'est une chose de recevoir la grâce et le pardon et l'amour de Jésus, mais c'est une autre de dégager cette patience, dégager cette grâce, d'avoir une communication semblable, parce que Jésus sert de notre sauveur, mais aussi de notre exemple. Est-ce que je peux vous encourager d'être ces instruments de grâce? C'est pas toujours facile. Dans ces jours de trouble, la pression de la vie de tous les jours où ce qu'on vit, des irritations, des frustrations, des déceptions, c'est pas toujours facile de dégager la grâce. Souvent, on dégage la colère, l'impatience, négativisme, le découragement, la critique. On est vite à attaquer des personnes dans leur faiblesse, attaquer des personnes avec lesquelles on est impatient. Est-ce que je peux vous encourager d'être plus comme Jésus et dégager la grâce, la patience, l'amour, la compassion et aussi la reconnaissance et dire plus souvent « Merci Seigneur pour mes amis, mon épouse, mon époux, mes enfants, mes collègues, mes frères et sœurs dans l'Église, merci Seigneur pour mes pasteurs. » Je prêche pour ma paroisse. Comme pasteur depuis 38 ans et communicateur public, on est plus fragile et sensible que vous pensez. Compliment de temps en temps à l'équipe pastorale, ça nous fait du bien. C'est facile de critiquer, mais ça nous fait du bien de temps en temps d'avoir des compliments et des encouragements comme n'importe qui d'autre. Et moi, je sais par expérience, moi je me souviens quand j'ai commencé dans le ministère puis commencé à prêcher les dimanches matins pour la première fois et quand j'étais dans la voiture avec mon épouse après les réunions dimanche matin que j'ai prêché, je cherchais un peu d'encouragement, ça, je disais des choses comme ça à mon épouse. Je ne suis pas certain que ça a bien été ce matin. Puis elle répondait, « Oui, je trouve que tu as eu de la misère. » La misère? Essaye de prêcher, toi, tu vas voir que ce n'est pas facile. Ça finissait toujours en chicane. Ça, j'ai arrêté de demander. Mais parce qu'on est fragile et plus sensible que vous pensez, mais on n'est pas seul, tout le monde est comme ça. Alors, Pierre arrive avec la honte, l'humiliation, de grande déclaration, grand échec. Et Jésus ne le mentionne même pas. Il veut juste savoir, est-ce que tu m'aimes? J'ai encore une destinée pour toi. J'ai encore un ministère pour toi. Pierre, tu n'es pas disqualifié. Et si Pierre n'était pas disqualifié, nous, on n'est pas disqualifiés non plus. Comment une bonne main d'applaudissement pour un Seigneur qui ne nous disqualifie pas. Il voulait être certain que son échec ne nuit pas à son amour, ni à son appel, sa mission, sa destinée. Pour ne pas laisser son échec gaspiller sa contribution, son don, son service. Jésus est plus concerné avec notre mission aujourd'hui que les erreurs de hier. C'est Winston Churchill qui a dit, « Le succès n'est pas une finalité, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. » Pierre et Judas, les deux ont trahi Jésus. Un a arrêté de courir, l'autre a trouvé la rédemption après avoir couru vers Jésus. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. pour tâcher de le saisir. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je cours vers le but. J'aime ça, il dit deux fois, mais je cours. Une phrase succincte, mais tellement importante. Je cours, j'arrête pas, j'abandonne pas, je cours vers le Seigneur. Même si je n'ai pas atteint la perfection, je cours vers celui qui est parfait. Mon père m'a toujours dit, ce n'est pas ce que tu as fait hier qui compte, mais ce que tu fais aujourd'hui, il y a l'intention de faire demain. Et j'espère que nous avons tous l'intention de courir vers Jésus. Quatrième chose à apprendre dans cette histoire par rapport à l'échec, Jésus n'est pas déçu. Jésus n'est pas déçu. Savez-vous qu'il est impossible de décevoir quelqu'un qui connaît la fin du début? Impossible. Il est impossible. Oh, j'ai laissé Jésus tomber. Oh, il doit être déçu avec moi. Impossible. Parce qu'il connaît la fin du début. Jésus n'est jamais déçu et n'est jamais surpris. Il savait qu'est-ce que Pierre était pour faire. Il lui a prophétisé, voici ce que tu vas faire, mais il a aimé quand même. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils ont tellement laissé tomber Jésus. Jésus doit être tellement déçu. Impossible qu'il me reçoive dans sa présence ou qu'il m'aime ou qu'il va servir de moi. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de décevoir quelqu'un qui connaît la fin du début. Quand il a appelé Ébénie et pourvu pour Pierre la première fois, il savait que ce que Pierre était pour faire, mais il lui a choisi et lui a aimé quand même. Très important à capter ça. Si Jésus vous aime une fois, vous a béni une fois, il fera aussi une deuxième fois et une troisième fois, car il savait qui vous étiez dès le début. C'est pour cela qu'il revient à Pierre avec exactement le même miracle que la première fois, la pêche miraculeuse. Vous lisez ça en Luc chapitre 5. La première fois qu'il rencontre Pierre, la pêche miraculeuse. Après la déception, une pêche miraculeuse. Il revient à Pierre de la même façon exactement. C'est pour cela que Pierre n'attend même pas les autres, mais il saute du bateau pour nager et courir vers Jésus. Il dit, c'est Jésus, il m'aime encore de la même manière. Il me bénit de la même manière qu'avant que je l'ai abandonné et blessé. Il n'est pas dessus. Jésus est encore là. Merci Seigneur pour son amour inconditionnel, persistant et constant. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Merci Seigneur. Tu es constant, constant, constant. Malgré moi, malgré moi. Une des choses que nous voulons que la parole de Dieu brise en nous et pour nous est la mentalité victime due à nos imperfections, nos erreurs et nos échecs. Car nous savons que l'ennemi de notre âme se sert des échecs et des déceptions pour nous paralyser par le découragement et ultimement nous détruire par le désespoir, un sentiment qu'il faut éviter à tout prix. Et c'est une des raisons pour laquelle Jésus invite ses disciples à manger avec lui après la résurrection et après qu'ils ont presque tout abandonné sauf Jean. Jésus leur dit quoi? Apportez des poissons que vous venez de prendre, venez, mange. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Bon, ça, c'est exactement ce qu'on voit au dernier souper avant la crucifixion. Pris du pain, comme le dernier souper. Et avant que Pierre et les autres l'aient abandonné. C'est une autre façon de dire, mon amour et affection pour vous n'a pas changé. Je désire encore la communion avec vous. Je ne suis pas déçu. Vous n'êtes pas des déceptions pour moi. On partage encore le pain. Encore une fois, amen pour la grâce, l'amour et la patience de Jésus. J'ai pris du pain avant et je prends du pain après. Wow! Jésus n'est pas déçu. Cinquième chose qu'on apprend ici, c'est qu'il faut courir vers Jésus. Comme dans le cas de Pierre, nager vers Jésus. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon Pierre mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu et se jetait dans la mer. Après un échec, il ne faut pas se cacher de Dieu, comme plusieurs font, ni fuir Jésus, éviter l'Église, vous éloigner du peuple de Dieu, je l'ai vu maintes fois, par la honte, la gêne, la frustration, la déception en soi. Mais il faut courir vers la seule personne qui peut nous aider, c'est Jésus. Pierre a fait de la bonne chose. Judas a fui, Pierre a couru vers. Fuis vers Jésus, cours vers Jésus, va vers Jésus. Non pas pour recevoir, mais pour entendre et pour apprendre. Ça, c'est le sixième principe. Combien de fois qu'on s'approche de Jésus pour demander des choses, recevoir des choses, pour qu'il fasse des choses pour nous ou pour nos bien-aimés ou même pour demander pardon, et c'est correct tout ça. Mais nous devons aussi l'approcher pour demander ce qu'il veut de nous, pour recevoir la direction, mission, instruction, la transformation. Et la transformation dans un échange avec Jésus, quand on approche Jésus, ça vient avec ce que j'appelle les deux H essentiels pour la prière efficace, l'humilité, l'honnêteté. Sois honnête et humble avec Jésus, comme Pierre ici dans cet échange. Pour la première fois de sa vie, Pierre dit les vraies affaires. Au lieu d'essayer d'impressionner Jésus, impressionner les autres disciples, dire n'importe quoi, pour la première fois, dû à son regret, sa déception, son échec, il dit les choses, les vraies choses pour la première fois. Finis les tentatives d'impressionner Jésus. Finis la surestimation de ses capacités. Nous trouvons un Pierre humble et honnête avec Jésus, mais c'est les premiers pas vers une véritable restauration et transformation. Et la signification de l'échange se trouve dans les mots grecs que nous perdons dans la traduction française. On va lire le même texte, mais avec les mots grecs à côté. Puis on perd ça dans la traduction française. Il y a deux mots grecs ici qui sont servis pour l'amour. Il y a le mot « agapé ». L'amour « agapé », c'est l'amour sacrificiel, l'amour profond. Hein? C'est l'amour de Pierre, d'une façon de parler, quand il dit « je vais mourir pour toi, j'ai un agapé pour toi ». Puis après ça, il y a un deuxième mot qui est « philios », qui est plus amical, fraternel, moins profond. Si on relit le texte, mais avec les mots grecs, là, parce que c'est très significatif, on voit le changement dans le cœur de Pierre. Après qu'il eut mangé, Jésus dit, « Simon, fils de Jonas, m'agapé-tu? » Est-ce que tu m'aimes encore avec cet agapé-là? Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Pierre répondit, « Seigneur, tu sais que je te philios. » Je ne peux pas dire, là, parce que à cause de mes gestes. Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Deuxième fois, « M'agapé-tu? » Pierre répond, « Seigneur, tu sais que je te philios. » Jésus dit, « Paix mes brebis. » Puis là, la troisième fois, il dit, « Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, me filios-tu? » Là, Jésus change le langage. Il dit, « Est-ce que tu me filios? » Et c'est pour ça que ça dit, Pierre était attristé quand il a demandé la troisième fois, « Est-ce que tu me filios? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je te filios. » Jésus dit, « Paix mes brebis. » Mais il a dit, « Seigneur, j'essaie plus de t'impressionner là, avec des grands mots, des grandes déclarations, des grandes promesses. » Il dit, « Tu sais toutes choses. » So, pour la première fois, on voit Pierre qui est honnête, il a une humilité. « J'aimerais dire que je t'ai agapé, Jésus, mais je ne peux pas. Je suis loin d'être cette personne-là, ce que je pensais que j'étais. » On appelle ça la prière précise, franche et courageuse. La précision dans le sens d'être précis. Moi, je vous encourage d'être précis dans vos prières. Nommez vos inquiétudes, vos émotions, ce que vous vivez, les besoins pressants que vous avez de la journée. Discutez vos sentiments avec Jésus. Pourquoi je me ressens comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Qui suis-je vraiment? Nous ne pouvons pas être libérés des choses qu'on ne nomme pas, qu'on ne confesse pas, qu'on ne partage pas, qu'on cache. Il faut être franc et courageux pour entendre la réponse, pour demander les bonnes questions. Nommez les choses qui pèsent sur votre cœur, petit ou grand, personnel, familial, financier, ministère. Nommez vos échecs, vos combats, et par la suite, remets à Jésus. Remets à Jésus, avec toute humilité et toute honnêteté. Nommer nos fardeaux est facile. De les remettre à Jésus, c'est un autre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qu'est-ce que Pierre ici nous enseigne? Pierre 1, Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Puis là, il continue. La raison pourquoi il dit ça, c'est parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, que vous appelez en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Wow, quel langage de Pierre! Ça, c'est le même Pierre qui était découragé, déprimé, défaitiste, et là maintenant, après une rencontre avec Jésus, il parle de Jésus, il dit, si vous déchargez sur lui tous vos soucis, Jésus va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous fortifier, et il va vous rendre inébranlable. Ce que Jésus a fait pour moi, Pierre, il peut faire pour vous. Come on, un bon applaudissement au Seigneur, parce qu'on voit le changement dans son langage. Puis il dit, ne soyez pas une victime de l'ennemi. L'ennemi rôde autour comme un lion et il va nous attaquer quand on est vulnérable, quand on est un vieux moment de déception, d'échec, de problème. On n'est pas fier de nous. Là, il vient, il dit, déchargez tout sur Jésus et Dieu va vous transformer. Il va vous perfectionner si vous courez toujours vers lui. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Là? Wow, Pierre a changé sa langage. Humble et honnête. Pour la première fois dans sa vie, Pierre est honnête. J'aimerais dire que j'étais agapé, mais j'étais filioche. Je ne sais pas que je dois être. Mais c'était le début d'une transformation, d'une victime à un vainqueur, d'un échec à un homme de Dieu vrai et véritable. J'invite les musiciens en avant ici. J'aimerais avoir ce moment de prière avec vous dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui est remarquable dans cet échange? Remarquable, c'est la fin. Parce que Pierre, il est attristé. Quand Jésus dit, bien, OK, c'est pas agapé, mais au moins tu me filias. Oui, oui, tu sais, Seigneur, je t'aime de cette manière-là. Oh, j'aimerais tellement être l'homme de Dieu qui est prêt à donner ma vie pour toi, mais je ne suis pas. Mais Jésus dit, c'est correct, c'est correct. Il dit, en vérité, je te le dis. C'est comme ça qu'il termine son échange avec Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu serais vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer quelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et en ses paroles, il lui dit, « Suis-moi. » Wow! Il est en train de dire à Pierre, « Un jour, les hommes vont porter, puis ils vont te crucifier. » Parce que l'histoire nous dit que Pierre était crucifié à l'envers. Et il dit, « Un jour, les hommes vont te porter. Tu vas vivre la persécution, tu vas devenir un martyr. » Et Pierre, sais-tu quoi? « Un jour, tu vas m'aimer avec l'amour agapé. » Parce que le jour arrive, ou est-ce que ta vie va être en péril? Ça va être soit Jésus ou toi, Jésus ou la vie. Et sais-tu quoi, Pierre? Tu vas être arrivé à l'état d'un homme agapé. Et la prochaine fois que ça arrive, tu vas dire, je ne ris jamais mon Seigneur et mon Sauveur que j'aime tellement et tu vas donner ta vie pour moi. Alors, sois pas découragé, Pierre. T'arrives à être la personne que tu dois être par la grâce de Dieu, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Quel encouragement! Il a dit, Pierre, tu vas devenir l'homme que tu dois être par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la même chose s'applique à tous et chacun de nous. Ne soyez pas découragé, paralysé, n'arrêtez pas, vous n'êtes pas disqualifié, courir toujours vers Jésus, laissez Jésus nous parler, nous transformer et nous allons devenir ce que nous devons être. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Ça mérite plus. Ça mérite plus qu'un applaudissement assis. Est-ce qu'on peut donner une ovation debout au Seigneur Jésus-Christ? Comment? Tout le monde debout, poussons un cri de joie puis dire yes, merci Seigneur, j'ai confiance en toi. Aie confiance en Jésus, aie confiance dans le Seigneur, aie confiance dans sa puissance, son esprit, sa grâce, sa présence, sa parole. Aie confiance en Jésus nous transformer. Aie confiance qu'il va nous faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. On compare la fin de Pierre avec la fin de Judas. C'est la différence entre le désespoir et la rédemption. La rédemption est toujours possible. Ce n'est pas la confiance en soi-même. C'est la confiance en Jésus, la rédemption. Jésus est un Seigneur de rédemption, restauration, renaissance, une nouvelle vie, une autre chance, un deuxième, troisième, quatrième. Je n'ai pas atteint la perfection, comme Paul dit, mais je cours, j'ai un désir, je veux être cette personne-là. Et Jésus demande juste deux questions. Il dit, bien, est-ce que tu m'aimes? Oui, mais correct. Fais qu'est-ce que tu as à faire? Béni, parle, témoigne, sers. Il dit, ce n'est pas la perfection que je cherche, c'est les personnes qui sont disponibles. Il y a des personnes qui disent, me voici Seigneur comme je suis. Et le Seigneur va nous rendre forts, inébranlables. Il va nous affermir et nous perfectionner si on lui donne le temps. Amen. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants pour chanter ce chant qu'on a chanté, qui parle juste de ma gloire à ton nom Jésus, parce que c'est parfait. Parce que ça dit que Jésus me donne la paix, la confiance, le courage. Le Seigneur est là pour moi. Et moi, j'aimerais juste dans ces quelques instants, avant de terminer, pas seulement qu'on chante ce chant, mais qu'on le vit. Qu'on l'expérimente Si vous êtes à l'aise avec ça, levez vos deux mains vers le Seigneur, juste commencez à l'adorer et prier. Peut-être fermez vos yeux, juste commencez à prier le Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Merci que tu as une parole pour moi, Seigneur, comme tu as eu pour Pierre. Et reçois de la part de Jésus. Le Seigneur ressuscité, le Seigneur ressuscité est présent. Ce même Jésus est là pour vous. Il est là pour vous comme qu'il était pour Pierre. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé à la réunion ici ce matin. Des regrets de hier, des regrets de la semaine passée, des regrets du passé, le mois dernier, des échecs, des troubles, des déceptions, je ne sais pas. Mais le Seigneur est là pour vous. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas le dernier chapitre. Il y a encore d'autres choses à vivre avec le Seigneur. Alors, laissons le Seigneur par son Saint-Esprit. Prenons un temps ici avec, dans la présence de Jésus et laisse le Saint-Esprit juste nous renouveler. Un réveil, une renaissance. Renouveler notre vision, notre passion, notre admiration pour le Seigneur Jésus-Christ. Et en chantant ce chant, encore une fois, reçois ce qu'on chante. Reçois la paix, l'amour, la confiance et le courage que le Seigneur donne, car il est présent ici, une action de ton esprit qui peut agir dans votre cœur, obtiger vos pensées, votre esprit. Chantez-le tous ensemble.